écouté une conférence de Thibaut Courault qui va nous parler de son studio, hein, Play Curious, et qui, dans ce studio, ont une tendance à faire des jeux plutôt éducatifs, plutôt comme ça qu'on ne peut pas forcément parler de serious game, mais plutôt de jeux ludo-éducatifs.
Ça peut rentrer dedans
dans certains cas, qui prennent, et c'est ce que j'avais vu et qui moi m'avait intéressé, en fait des thématiques assez larges. Ouais. Surtout un qui m'avait intéressé, bon, c'est l'historien qui parle sur un jeu historique où il fallait replacer sur une frise chronologique des
éléments.
Exactement, notamment science-fiction et les super-héros, je viens de dire. Mais là on va s'intéresser particulièrement à un jeu précis, hein, Canopée Secrète. Qui vous le présenterez, mais qui en gros s'attarde sur du vrai en réalité, puisque c'est véritablement une forêt du sud de la France,
c'est ça.
Entre les Pyrénées et la Méditerranée. Ouais. Donc je vais pas trop spoiler pour la découverte. Et on vous écoute là-dessus pour une petite heure.
Alors moi, ça tombe bien que tu aies pris un peu de temps, parce que moi ça va être beaucoup plus court, je pense. Nous, on a l'habitude de faire des petits jeux chez Play Curious. Donc moi, je suis Thibaut, je suis directeur artistique, motion designer, illustrateur, pixel artist, enfin, voilà, vous mettez un petit peu tout ce que vous voulez. À partir du moment où c'est de l'image, je le fais. Donc j'ai eu la chance de travailler chez Play Curious pendant 3 ans, jusqu'à la fin de l'année dernière. Et donc, comme en intro, ça a été expliqué, on a bossé sur beaucoup de petits projets. Alors, en général, je peux peut-être passer. Voilà. Donc, nous, on a eu plus l'habitude de travailler sur des petits jeux où on a bossé avec des ONG, des écoles, des universités, voilà, des associations aussi. Mais également avec des sociétés un peu plus classiques et capitalistes, on va être clair. Voilà, pour des produits, du marketing, faire des jeux, voilà, pour des événements divers et variés, pas toujours très très intéressants, mais peu importe. Donc nous, on a plus l'habitude de faire du jeu de commande, même si on essaie de développer nos petits jeux en parallèle. C'était un peu l'écosystème du studio. Voilà, en général, c'est des jeux qui durent, on va dire, 15, 20 minutes, une demi, enfin voilà, rarement plus d'une heure. Et ça peut être des puzzle games comme des choses un petit peu plus scénarisées. Voilà, il y a un petit peu de tout, des choses qui ressemblent un petit peu à des quiz, mais avec des petits détournements, etc. Donc c'était un peu l'identité du studio. Donc en courant 2024, la réserve naturelle de la forêt de la Massane nous a contactés pour créer un support ludique à destination essentiellement des enfants en école primaire, afin de leur expliquer un petit peu comment ça se passe une forêt, comment ça évolue, comment ça vit, quelles sont les espèces qu'il y a, etc. Donc la forêt de la Massane, c'est une forêt qui est dans le sud de la France, hein, comme vous voyez, près de Perpignan, pratiquement ça touche l'Espagne, il me semble. C'est une forêt qui est en libre évolution. Je crois que c'est un truc genre 1% du territoire français, des espaces de forêt en France. La libre évolution, c'est le concept, c'est il n'y a pas d'activité humaine type excavatrice ou replantage ou abattage d'arbres, etc. On laisse vraiment la nature proliférer, se débrouiller d'elle-même. Quand un arbre tombe, on va pas l'enlever parce que c'est pas beau, etc. Il y a des observateurs qui travaillent tout au long de l'année et qui font des observations, qui étudient les plantes, les, les animaux, les insectes, les champignons, etc. Et donc ils avaient la volonté, voilà, de faire un petit peu connaître leur métier. Ils avaient réussi à avoir des financements pour développer un outil qui pourrait les aider à faire ça. Au-delà des seuls enfants en primaire, c'était un petit peu plus localement aussi de faire connaître un petit peu leurs occupations quotidiennes, en fait. Donc voilà, on a rencontré Diane Sorel, qui est la conservatrice de la réserve naturelle de la Massane. C'est avec elle qu'on a échangé tout au long du projet. Elle nous a transmis évidemment sa passion pour la nature, son engagement et puis ses connaissances, obligatoirement. Et c'est elle qui nous a... C'était notre principal interlocuteur pour pouvoir réaliser et mener à bien ce projet. Donc évidemment, ça s'est transformé très très rapidement en jeu vidéo. Enfin, ça s'est transformé. C'était un peu une volonté aussi de Diane et des agents qui travaillent avec elle, parce qu'elle n'est pas évidemment pas toute seule. Donc on a décidé de faire un petit jeu vidéo qui a plusieurs objectifs. Il y avait plusieurs objectifs, donc c'est, comme je vous l'ai expliqué, un jeu éducatif destiné à un public plutôt jeune, merci. Donc un outil pédagogique, vraiment, pour que les enfants puissent comprendre qu'est-ce qui se passe en forêt, parce que la plupart des enfants ne vont pas en forêt, hein. Ils vont à la plage, dans les magasins, ils vont dans leur chambre, ils jouent à la Switch. La forêt, ça devient quelque chose qui devient de plus en plus éloigné pour pas mal d'enfants. La nature, c'est dangereux. Il y a des loups dans les forêts. Ils peuvent nous manger. Enfin bref, je divague un peu. Donc du coup, voilà, c'était le but, c'est de leur apprendre et puis de montrer ça de façon un petit peu merveilleuse et de ne pas rester sur une vision. C'est après un peu de là que coule l'ADA, mais je vous l'expliquerai un petit peu après aussi. Il doit servir d'objet de communication. Il sera utilisé par les enseignants pour introduire les sujets, parce que les agents après iront dans les écoles pour à l'aide de supports et avec d'autres, j'imagine. Pour expliquer ça aux élèves. Donc le jeu doit être accessible pour tout le monde, sachant que dans les écoles, il y a des vieux PC, c'est des grosses patates en général. Quand ils ont une connexion internet, c'est bien. Et évidemment, le jeu doit avoir un impact carbone le plus bas possible. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous, on est partis sur des technologies web, alors qu'on connaît bien, parce que c'était un peu notre marque de fabrique. Donc voilà, on est très rapidement parti sur un concept d'hidden object, d'objet caché, un truc convivial, accessible pour tout le monde, essentiellement pour les primaires qui n'ont pas obligatoirement tous l'habitude de jouer aux jeux vidéo, qui n'ont pas obligatoirement tous les codes pour jouer à des jeux un petit peu complexes, en 3D, où il faut se déplacer, avoir un sens de l'orientation, etc. Donc on s'est dit qu'un petit jeu 2D où on cache des objets sous les arbres, en haut de la map, en bas, etc. Ça pouvait être sympathique et accessible pour tous. On a ajouté aussi des petites mécaniques secondaires avec des petits mini-jeux, des puzzles et une narration assez légère pour pas porter trop sur la lecture non plus, qui peut être un peu un point faible pour certains élèves. Donc les mécaniques principales, ça c'est normalement, c'est le...
slide blanc.
C'est la vidéo.
C'est un format.
Ah, c'est une vidéo.
Ouais, c'est une vidéo MB.
Ah, c'est clair, c'est du PDF.
Ah, et puis il va pas y avoir le lien.
Si tu repars sur
non,
le
c'est pas le PDF. Je peux, mais elle n'est pas en PDF.
Et il
n'y
a pas un lien caché?
Non. Tu vas voir.
Là, c'est la version anglaise. Hein. Normalement, il y a une version française aussi. Mais...
Ouais.
Une... Si, normalement, il y a une petite musique aussi.
Ah, mais ça sort que de l'ordi.
Ah.
C'est bizarre.
Bon, en fait, c'est pas...
Vous l'entendez ?
C'est pas très bien. Ça dure pas longtemps. Ça montre les principales mécaniques du jeu, hein, tout bêtement. Ça aborde un tout petit peu l'histoire. Bon, voilà, vous voyez que c'est des mécaniques qui sont quand même très très simples. Être bon en anglais hein, pour les... mais voilà, il y a une version anglaise et une version française.
Pas de version espagnole,
non, pas encore en tout cas. C'est pas prévu, c'est vrai que
on n'y a même pas pensé.
Bah oui, c'est tout proche.
Catalan en tout cas.
Et on posera la question. voilà donc oui, comme je disais, les principales actions de gameplay sont vraiment assez simples. On a voulu faire quelque chose qui soit assez intuitif et assez évident pour tout le monde. Les piliers de design, l'observation, l'enfant doit observer pour essayer de trouver les animaux, de reconnaître quelles sont les petites icônes, essayer de les trouver dans un tableau qui parfois peut être petit, parfois un peu plus grand, il peut être de jour, de nuit, etc. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur un animal, un animal ou une plante, hein, c'est pas toujours que des animaux, on va avoir des petits textes, vraiment une phrase, deux phrases pour expliquer, ce qu'il a besoin de manger, donc il faut lui trouver, par exemple l'écureuil doit trouver des noisettes, hein, on apprend un petit peu comment toutes ces espèces vivent en interconnexion dans la forêt. Donc ça, c'est une partie de l'info. Et à chaque fois, c'est assez, c'est assez simple. Hein. On a essayé d'éviter le maximum de friction avec ces éléments de gameplay-là. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a fait un jeu avec des petites animations qu'on a fait à la main? On a pris beaucoup de temps déjà pour les faire à la main. On a, une soixantaine d'animations, que ce soit des animaux, des végétaux qui parfois sont animés. Tous les animaux en tout cas le sont. Et on a décidé de tout faire à la main parce que ça nous semblait plus authentique que de faire quelque chose avec des bones, etc. Enfin voilà, du vectoriel un peu. Un peu plus froid, peut-être. Alors, on n'est pas parti sur de la 3D non plus parce que les problèmes de la 3D, c'est plus que le coût de production qui aurait explosé. Mais on s'est dit que ça avait son petit charme d'animer les choses à la main. anciennes, dans les petits animés, enfin dans les vieux dessins animés, pardon. Alors après, on n'a pas fait des choses compliquées, on s'est arrêté à faire du 12 frames par seconde et des petites boucles d'animation qui sont de 2 à 3 secondes grand maximum, mais multipliées par le nombre d'animaux, etc. Ça fait pas mal au final. Quoi. En plus, on a fait un choix un peu bizarre qui est d'utiliser un petit soft qui s'appelle Asprite.
Pourquoi je sais pas si.
Pourquoi bizarre ? Parce qu'à la base, c'est un logiciel de
vidéo. Il y a plein de gens qui s'en servent, hein, c'est pourquoi bizarre.
Ouais, mais parce qu'ils s'en servent pour faire du pixel art, et pas obligatoirement, et pas du tout.
Ah, oui, c'est
des choses lisses, on va dire. Mais nous, c'était l'avantage, c'était déjà qu'on l'avait tous. Enfin, on l'avait tous. Hein. Je n'ai pas parlé de l'équipe, mais on n'est pas une très grosse équipe. On était 4 sur le projet. 2 développeurs et 2 designers. Et donc, on avait déjà les licences. Et puis, en plus, c'est un petit logiciel qui fonctionne bien, qui est plutôt simple, on va dire, pour l'usage dont on avait besoin. Ça collait parfaitement, même si on l'a détourné un petit peu. Et donc du coup, et puis ça permettait aussi d'exporter assez facilement des images de relativement bonne qualité, bon, même de très bonne qualité, vu que c'est au pixel perfect, voilà, donc le pixel qui était en trop, on l'avait à la fin. Mais au moins ça permettait de compresser aussi très bien les images derrière, donc pour faire les animations les plus légères aussi. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé ça. Voilà, donc ouais, comme je le mets là, hein, tous les assets du jeu, je ne sais plus combien il y en a. Il doit y avoir peut-être 200 assets en tout, avec pour un tiers des animations, et à la fin on arrive à moins de 15 mégas d'assets, donc on était plutôt assez content du résultat. En tout cas, c'était une première partie qui était validée à ce niveau-là. Je suis un peu sorti de mon truc, mais... pour l'univers sonore, qui est une part importante du jeu vidéo, hein, comme vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre. Avec Diane, on s'est dit que ça serait pas mal d'utiliser des sons réels des animaux. Et en plus, l'avantage que nous on avait, que Diane avait surtout, c'est que quelque part les gens qui travaillent dans la forêt, soit comme ils font l'observation, etc. Il se trouve qu'ils ont aussi des micros, donc c'est assez pratique pour prendre les sons des animaux, les insectes qui grattent, tout plein de petits sons comme ça. Alors ça n'a pas été une masse à faire derrière pour Jean-Baptiste qui s'est occupé du sound design après de les nettoyer, parce que en fait on ne se rend pas compte, mais la forêt, c'est du bruit tout le temps. En fait, il y a toujours du bruit. Quoi. Bon, c'est vrai qu'on se dit c'est paisible, c'est calme, c'est tranquille. Et il y a du vent, il y a une branche qui tombe, un petit truc qui gratte au fond d'un trou, etc. Mais en fait, ça a été un peu une galère pour essayer d'isoler complètement le son d'un animal dans le jeu. Mais c'était apparemment ici amusé quand même. En tout cas, nous, ça nous a permis d'avoir des sons d'une trentaine d'animaux, c'était plutôt sympa. Pour le reste, effectivement, il y a du sound design, donc là, c'est pas des sons naturels, mais on a repris des sonorités un peu tranquilles, un peu chill, qui poussent encore un petit peu plus dans le cosy, et puis dans l'envie de se plonger. Et de méditer presque dans le jeu, c'était un peu l'idée. Donc là, je vais vous parler des choix techniques. Alors, je suis sûrement le plus mal placé dans la pièce pour vous en parler, mais il faut bien que je m'y colle un peu. Étant donné que Jesse, donc le développeur du jeu, n'était pas dispo. comme je l'ai expliqué, ouais, on utilise des technologies web, HTML5, JavaScript, TypeScript, etc. Il y en a qui savent pas ce que c'est tout ça. Ok. Voilà, c'est des langages qui permettent d'avoir des jeux sur le web assez, de façon assez simple, on va dire. Donc ça permet une vitesse de développement un peu plus rapide que de passer par des langages un peu plus complexes, etc. Et puis la facilité de la diffusion, il y a juste besoin d'avoir un lien pour pouvoir jouer. Donc c'est assez avantageux à ce niveau-là. Il n'y a pas besoin d'avoir Steam, d'installer 3-4 trucs, etc. Quand il y a une mise à jour, elle est faite directement sur le site et pas chez le joueur. Donc ça a quand même pas mal d'avantages. Et là, surtout pour la diffusion un peu grand public, mais qui n'est pas du tout expert du jeu vidéo, il n'y a pas besoin d'installer une appli. Ça évite quand même pas mal de freins pour pouvoir être diffusé. On a un petit moteur de jeu aussi, Bouya, qui est le moteur que Jesse avait développé, qui a été utilisé aussi pour Canopée Secrète. Et on utilise notamment PixieJS, qui est une librairie open source qui permet d'avoir des jeux qui soient un peu sympas. Ça permet de réaliser des animes 2D sur le web et en plus interactives. Donc c'est ce qui est plutôt intéressant. Après des outils on en a encore utilisé d'autres. Texture Picker qui permet effectivement de compresser encore plus des images qui étaient déjà des images et des animations qui étaient déjà assez minimales, on va dire. Ça a permis à la fin de réduire le poids du jeu à un total de 31,7 mégas. Avec les sons, le code. Bon, le code, c'est pas ce qui pèse le plus lourd en général, mais c'est toujours les assets. et les sons. Ensuite, on a bossé avec Akenplan, GitHub, Google Drive. Bon, ça, c'est un peu du classique. Je pense que pas besoin de rentrer dans les détails pour expliquer ce que ça fait et pourquoi. Et on a surtout développé notre petit éditeur, parce qu'on a créé chaque niveau à la main, avec, comme vous voyez à gauche, tous les assets qu'on peut venir glisser, déposer sur une grille avec des tiles de flotte, des tiles de parterre, etc. Donc, pour pouvoir vraiment construire à chaque fois un petit niveau un peu différent. Bon, c'est un truc un peu classique quand on fait des jeux de civilisation, des trucs comme ça. Tout le monde connaît un peu ça. Mais pour le web, ça n'existait pas vraiment et on n'avait pas d'outils pour pouvoir faire ça. C'est pour ça qu'on l'a créé. On s'est dit qu'on l'utiliserait sûrement pour pas mal d'autres petits jeux derrière. Donc ça nous a permis de mettre la main, de se faire la main un petit peu dessus. Et puis à droite, on a un inspecteur. Je ne sais pas pourquoi sur la capture d'écran, c'est un peu foiré. Mais globalement, quand on sélectionne un élément, on a toutes les interactions qui sont possibles, etc. Donc on peut lui rentrer. Lui rentrer des informations, lui dire que l'arbre peut bouger ou que quand on clique dessus le feuillage s'enlève, plein de petits détails comme ça, ou alors que c'est un objet de quête parce que la loutre, faut trouver les poissons, machin, donc quand on clique sur les poissons, sur l'inspecteur, il y a marqué la quête qui correspond à la loutre, voilà, etc. Ensuite, on peut exporter ça en JSON, et un des avantages de cet éditeur-là, c'est qu'il fonctionne aussi sur le web. Et chacun d'entre nous pouvait faire son propre niveau. Globalement, à la fin, on fait exporter, on a le JSON, et puis les devs les récupèrent, et puis on a 3-4 niveaux différents faits par 2-3 personnes. Même les personnes de la Massane sont amusées un petit peu à essayer d'en faire. Bon, sont pas allés très très loin, mais c'était pas... ça les a amusés de voir comment ça fonctionnait et le petit outil qu'on avait développé pour... Mince, je l'ai perdu. Voilà. J'y retourne. Donc le but, bah, c'est de transmettre des connaissances scientifiques à travers le jeu. Donc on en est où, la
présentation ? Au game design.
Ouais. Bon, alors c'est relativement simple. Hein. Donc là, comme j'ai expliqué, c'est un point de clic. Il faut trouver des objets cachés. La deuxième boucle des gameplay, entre guillemets, c'est un jeu de collecte où comme vous l'avez vu dans le teaser, à un moment, quand on clique sur certains animaux ou certains éléments, parce que pratiquement tout est cliquable dans un niveau. C'est-à-dire que le moindre gland ou la moindre plante est cliquable, et parfois ça peut déclencher le fait qu'on trouve des petits stickers. Et donc ça crée un petit jeu de collection. On récupère les stickers au fur et à mesure des niveaux. Et des sortes de patounes. Mais qui sont utiles. Quand on en débloque suffisamment, on peut avoir accès à des petits mini-jeux, des puzzles. Et donc à chaque fois on a une carte, on a des cartes différentes et on évolue en fonction des choses qu'on a débloquées ou pas. Sachant que tous les niveaux sont quand même jouables, même sans avoir eu tous les stickers, etc. Parce que le but, c'est comme c'est un jeu où il faut. Enfin, on essaye de le diffuser à des enfants, etc. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de blocage parce que j'y arrive pas, je ne peux pas avoir accès. Nous, c'est plus des récompenses pour dire tu as trouvé des stickers. Tu peux avoir accès à des petits jeux supplémentaires, mais pas de bloquer le jeu principal. Donc voilà, il y a 24 tableaux avec plusieurs cartes, plusieurs maps. Donc il y a une version des niveaux de jour et de nuit. Donc voilà, on retrouve des animaux différents de jour et de nuit, parce que effectivement, il y en a qui sortent le jour et pas la nuit. Et inversement. C'est ce que j'expliquais. Après, c'est les stickers. Donc, on récupère pas mal de stickers pour avoir. Voilà. C'était pas dans la démo, mais globalement, on peut avoir des petits jeux où typiquement, il faut recoller le bon sticker en face du nom de l'animal et de sa description. Donc, ça permet d'approfondir encore un peu plus l'apprentissage. Est-ce qu'on a bien reconnu le bon animal, sachant que là c'est assez entre guillemets assez facile, mais je vous rassure qu'il y a des espèces où même moi j'étais là, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc, surtout chez les insectes, on connaît vraiment très très mal, quoi. Mais du coup c'est assez rigolo. Et donc tous ces éléments là se retrouvent dans le livre des souvenirs. Donc le livre des souvenirs, c'est en gros le joueur joue un enfant ou enfin on ne sait pas, personne jeune adulte ou adulte qui essaie de retrouver sa grand-mère. C'est un peu ça la trame de l'histoire, elle est relativement légère. Et à chaque fois, en gros, il suit sur la map que vous avez vue avant, il suit les niveaux pour. Et à chaque fois, il y a un petit point d'ancrage qui dit peut-être que ta grand-mère est allée voir là-bas, etc., etc. Donc on retrouve un peu aussi des petites histoires comme ça. Où on doit remettre les photos au bon endroit sur le livre pour correspondre et refaire le souvenir qu'on a eu avec la grand-mère. Donc ça, c'est un peu plus méta, mais c'est une partie qu'on avait envie de développer aussi. Là, c'est différents mini-jeux, des petits puzzles, mais c'est toujours voilà, dans le fait d'apprendre. Là, on a fait un petit puzzle où c'est peut-être pas évident là parce que c'est un peu petit. Où en gros, on fait comprendre que les fourmis, elles font des grands lacets pour arriver à sortir ou à trouver des proies, etc. Enfin, peu importe. Mais on en a fait un petit jeu de puzzle. Puis après, ça explique un petit peu l'évolution d'un arbre. Donc, ça part d'une graine et puis ça devient un érable, etc. C'est pour reconnaître un petit peu les différentes étapes de la vie d'un arbre. Voilà, bon, est-ce que j'explique la boucle de gameplay, est-ce que ça vous intéresse ou pas, je sais pas, c'est peut-être un peu deep et peut-être pas très très intéressant, mais bon, en tout cas, il y en a une, la preuve. Je sais pas combien de temps ça fait.
Ouais, il reste encore un petit quart d'heure.
Ok. Voilà, donc du coup, on va repasser sur un peu la narration. Chaque tableau met en scène une partie de la forêt, alors oui, c'est un truc que je n'ai pas expliqué, c'est qu'effectivement, suivant les niveaux, il y a différentes vues, soit très près du sol pour voir des objets ou des animaux qui sont tout petits, des insectes, des fleurs, des feuilles, etc. Et puis aussi, comme vous avez vu avant, des niveaux où on est un peu plus éloigné. Donc ça a été une discussion qui était un peu complexe. Déjà entre nous, et puis après avec Diane, enfin complexe, c'est résolu assez facilement, mais c'était le problème d'échelle. C'est-à-dire que les arbres, ça peut être très très grand, comme ça peut être très petit au début. Et les animaux, malheureusement, ils n'ont pas les mêmes dimensions, c'est-à-dire que quand on va représenter un chêne avec une musarine, par exemple, dans un même niveau qui est vu un peu comme ça, soit il faut engrossir un, soit il faut rétrécir l'autre. Donc voilà, on a fait des choix de qui deviennent un petit peu la DA derrière, de se dire on va tout ramasser pour que, même s'il y a des proportions qui sont plus bonnes entre les animaux, on a un petit peu du mal à savoir comment il va pouvoir manger ça alors qu'il est pratiquement aussi gros que le chasseur, quoi, entre guillemets, ça va être un petit peu compliqué. Donc on a décidé qu'on n'aurait que deux niveaux, parce qu'au début on voulait faire un troisième niveau vu du ciel, vraiment de plus haut, pour là se concentrer plus sur les arbres, etc. Et finalement on s'est dit que ce serait un peu beaucoup, trop de boulot, donc on s'est limité à deux seulement, ce qui a déjà donné lieu à pas mal de débats, mais globalement ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est même très bien passé. Scientifiquement, après, effectivement, il y a une petite. On a synthétisé un petit peu les formes pour les rendre plus. Sur des petits écrans, donc on n'a pas le choix. Mais globalement, scientifiquement, on est quand même. On n'a pas rajouté des pattes, une fourmi, on a essayé de respecter les couleurs au plus proche possible, mais tout en synthétisant un petit peu, quoi. En essayant de rendre les trucs un peu cute aussi, on va pas s'en cacher. Mais voilà. Et donc du coup, la narration, effectivement, comme je vous l'ai expliqué, c'est des choses qui sont données quand on va cliquer sur les icônes, quand on va cliquer sur les animaux. Et puis parfois, dans la map, au début, il y a un petit endroit sur la droite où effectivement la mamie peut donner aussi des petits indices, etc. pour essayer de fluidifier un petit peu tout ça, quoi. Voilà, et puis essentiellement dans le livre des souvenirs, on en retrouve un petit peu plus. Ça c'est une équipe à l'époque. J'avais pas les mêmes lunettes, mais globalement à gauche il y a Jessie. C'est l'équipe de Pliculus qui a bossé sur le jeu. Et Samuel, qui est LDNJ, j'arrive à m'y aller, je suis un peu dyslexique. Et du coup, qui cherche un studio pour pouvoir finir sa licence. Donc, si jamais y en a qui peuvent le prendre, ce serait avec plaisir. Parce que ce que je ne vous ai pas annoncé, c'est que malheureusement, le studio a fermé en fin d'année dernière. Même si on continue à travailler sur le projet, malheureusement, avec tous les problématiques globales, on va dire, on n'a pas réussi à tenir le cap. Et puis surtout qu'on manquait beaucoup de clients. Donc, mais bon, voilà, c'est un peu le problème quand on bosse avec des associations, qui ont beaucoup moins de budget aussi, et les écoles également. Donc voilà, on continue quand même le projet, on va essayer normalement on le finalise là d'ici l'été. Et puis voilà. Est-ce que vous avez une petite question?
Moi j'en ai une.
Ouais.
Alors moi ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que ça permet de mettre en valeur déjà un espace existant, de façon de fois existante. Et ce qui m'a intéressé, c'est que c'était à destination d'un public assez jeune, donc c'est quelque chose de pédagogique. Est-ce que vous avez eu un moment, des relations, et ça pourrait en plus connecter avec les financements, un moment, une relation avec le rectorat d'Occitanie ou avec l'éducation nationale pour essayer d'élargir le propos?
Non, pas du tout. Pourquoi, je ne sais pas. Mais mais parfois on a bossé avec des écoles, effectivement, où on savait que les jeux étaient diffusés dans une région, voire même plusieurs. C'est tellement d'étapes à chaque fois à passer, des mails à faire, et en général, c'est pas les personnes qui produisent le jeu qui s'occupent vraiment de ça. Après, peut-être qu'on aura des échos avec il y aura des actions derrière qui pourront être menées, je sais pas, puis on l'espère. Hein.
Oui, parce que ce type de jeu, dans l'éducation nationale, il y a déjà une plateforme de récupération, une plateforme Canopée justement, qui rassemble tous les serious games ou jeux éducatifs.
Ouais.
Et ça pourrait prendre sa place. Hein. D'autres jeux d'ailleurs de Play Curious pourraient prendre leur place là-dedans, ce qui permettrait déjà d'avoir un accord, un contrat et peut-être de relancer les choses.
Après, on avait étudié ça à un moment, c'était quand même assez compliqué. Pouvoir rentrer dans le processus, et puis c'est beaucoup d'efforts, faut avoir des accréditations à droite et à gauche,
le Calliope, tout ça.
C'est ça, et on n'avait pas, et puis on n'a pas spécialement la foi pour faire ça, on préférait laisser ça à d'autres. Mais on a eu des relations avec des boîtes qui s'occupaient un peu de ça, mais c'était pas suffisamment simple. Nous, on aime bien faire des jeux. C'est sûrement aussi pour ça que le studio a fermé aussi, aller chercher les financements, etc. Trouver les bons partenaires pour essayer de... C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Puis quand on n'est pas dedans, ça peut être obscur.
C'est obscur.
Ouais.
Et en termes de retour public, vous avez eu des...
Où est-ce qu'on l'a testé? Je ne me souviens plus de l'événement. C'était à Nantes, je crois. Ouais, c'était à Nantes, mais je ne me souviens plus du nom de l'événement à Nantes. Pendant toute une après-midi, on a eu un flot incessant d'enfants. Puis même d'adultes, il y a des adultes qui ont joué. Donc on était plutôt assez contents. Après, c'était qu'une version démo, donc il n'y avait que la partie objet caché. Mais même ça, ils sont allés jusqu'au bout, pratiquement tous. Donc, on était assez contents du résultat. Enfin, c'était qu'un premier test. Hein, mais...
Oui, mais c'est les concluants, c'est
ouais.
Bien.
Oui.
Moi, j'avais des questions par rapport à l'interaction entre jeux vidéo et la recherche. Le projet d'IA aussi, c'est d'arriver à faire se mélanger les deux mondes.
Mm-hmm.
C'est une première, se voir.
Ouais.
C'est très compliqué d'arriver justement à mélanger les deux mondes. Et du coup, comment est-ce que vous avez travaillé avec les personnes de la forêt, etc. Enfin, comment ça s'est fait, cette synergie, ces allers-retours?
Ouais.
Comment est-ce que vous avez fait pour que ça avance?
Alors moi, comme j'ai un parcours un peu. Enfin, moi, je viens pas du jeu vidéo, mais j'ai plutôt des agences de communication et de marketing. Donc, de gérer des projets, je veux pas dire que c'est mon dada, parce que ça n'est pas vraiment. Mais en tout cas, j'ai eu l'habitude de faire ça. Et puis, j'ai toujours travaillé en freelance, donc j'ai toujours travaillé avec des clients. Donc, pour moi, entre guillemets, c'est presque naturel. Voilà, on les a rencontrés, on a établi un plan d'attaque, on va dire. Voilà, on se rencontre tous les mois au début. Au début, c'est assez rapproché, et puis au fur et à mesure de la production, il y a besoin de se dire un peu moins les choses, il y a juste à avancer. Effectivement, on pose dès le départ. On va créer des pistes pour la créa, on va créer des pistes pour les types de gameplay, on va créer des pistes pour les différents aspects du jeu, on va tous se mettre autour d'une table, nous on vous fait des propositions, vous nous faites des retours, c'est un peu du jeu de ping-pong comme ça, en tout cas les premiers mois, et puis on fixe les choses au fur et à mesure. Comme ça, assez librement, il n'y a pas des grosses contraintes, mais on se donne quand même des délais pour se dire cette date-là, il faut avoir avancé là-dessus, il faut que ça se soit cadré, il faut que ce soit écrit, il faut que ce soit validé surtout. Il faut que les retours soient faits en temps et en heure pour que nous, derrière, on puisse avancer. Parce que souvent, les clients ont l'impression que vont dire vous avez un jeu vidéo à faire, faites-le, puis à la fin on vous dit si c'est bien ou si c'est pas bien. Ou à chaque étape, ils ont l'impression que ça va être ça. Non, mais ça on n'aime pas trop, on préfère le rose, le bleu, machin, etc. Sauf que nous, on essaie de justement bien cadrer et de les impliquer au maximum, parce qu'ils ont besoin de se sentir impliqués déjà. En général, c'est souvent des demandes un peu spécifiques. On vient pas te voir tous les jours pour dire j'ai envie de faire un petit jeu vidéo pour ma boîte ou pour mon asso, etc. Mais on pense que ça pourrait être bien. En général, c'est que les gens sont déjà assez. On n'a pas besoin de les convertir souvent. Ils sont assez motivés. Sauf que derrière, ils n'ont pas obligatoirement la conscience de tout le boulot que ça va leur demander. Déjà juste de relire, déjà le minimum, c'est déjà pas mal, de faire des retours. Et puis parfois, quand on travaille sur des sujets un peu scientifiques, nous, on n'est pas scientifiques par contre. Donc parler de tel ou tel sujet, ça, on peut faire un effort de ce qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est de s'intéresser à minima, et puis d'essayer d'approfondir le sujet, mais on ne pourra jamais devenir un expert scientifique dans tel ou tel truc, donc on a besoin qu'ils fassent des efforts pour nous fournir de la matière, tout simplement, pour qu'on puisse jouer avec. Donc voilà, et puis après ça avance comme ça, on va dire.
Et si justement tu devais passer un message à tes collègues game dev de pouvoir peut-être bosser avec la recherche, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Comme dit, c'est vraiment un autre monde pour eux.
C'est ça, il faut faire preuve de pédagogie, d'écoute, et puis d'être ouvert, et en même temps en sachant mettre les limites quand il y a besoin d'en mettre, parce que parfois on demande de réaliser un jeu en 3D avec open world, machin, etc., alors que le budget c'est pour trois patates. Là, c'est un peu compliqué.
Voilà. J'avais deux questions. Premièrement, du coup, vous avez parlé d'un moteur maison. Est-ce que pour vous, vous en voyez vraiment l'utilité dans le sens où vous parlez de contraintes techniques, beaucoup de compression, pour que je tombe sur beaucoup de moteurs d'ordinateurs. Est-ce que c'était quelque chose de volontaire ou est-ce que c'était plutôt une nécessité de faire un moteur maison? Et aussi, je me demandais, comme vous parliez beaucoup de ben, justement interagir avec les enfants, est-ce que vous aviez pensé en faire un jeu de plateau plus qu'un jeu vidéo à la base? Parce que comme c'est très dessiné, comme ça, enfin, on pourrait penser même enfin, presque à un Où est Charlie à montrer. Est-ce que vous avez. Ben, c'est des thématiques qui sont posées aussi.
Alors, pour le premier, pourquoi est-ce qu'on a fait un moteur de jeu alors, tu parles de l'éditeur
Non, le,
ou le moteur.
Le moteur, du coup, c'est le moteur maison, c'est ça?
Ouais. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, je suis un peu mal placé pour dire ça, mais Jesse, lui, bosse depuis très très longtemps avec des outils qui sont en open source. Voilà. Donc, il avait voulu faire un moteur de. Enfin, je crois que ça remonte à peut-être une dizaine d'années. Il avait voulu créer son propre moteur qu'il a amélioré au fur et à mesure. Et donc, en fait, il avait déjà une base au moment où il a créé le studio, en 2019, et il a continué à l'alimenter et à le développer. Et voilà, ça, c'est avec des librairies qui sont open source, etc. Enfin, voilà, apparemment, c'est un bac à sable quand même assez, assez intéressant. Pour ça. Donc après, dire à chaque fois, en fait, pour tous les jeux, il l'a utilisé. Donc, voilà, c'est un peu comme Unity, mais en mode... En mode open source, enfin, c'est pas du tout un Unity, c'est plus pour l'idée. Et après, pourquoi on l'a pas fait en jeu de plateau, etc. Alors, c'est une idée qui nous a trotté longtemps dans la tête, et même de le faire en. Pas en réalité augmentée, comment
on
dit ça ? Ouais, non, pas en VR, on a un poster, et puis avec son téléphone, machin,
oui,
comme ça. Ouais, c'est la réalité augmentée, ça. Bah, sauf qu'il s'est passé pas mal de choses depuis et il y a eu d'autres priorités.
Voilà. J'allais dire, est-ce que du coup, par exemple, pour le tester, est-ce qu'il y a besoin d'un adulte à côté? Parce que,
pas du tout.
Non, c'est, même les plus jeunes arrivent quand même à interagir avec le monde.
Oui. Voilà. Après, plus jeune, ça dépend à partir de quel âge.
Oui, c'est possible.
S'ils ont du mal à tenir la souris, on en a eu pendant les tests qui avaient un petit peu du mal avec la souris, mais ils montraient du doigt sur l'écran. Et donc l'adulte derrière.
Et le portage mobile?
Et le portage mobile, ben en fait, il est déjà en. Alors, c'est pas en. Là, tu peux y jouer sur ton téléphone ou comme sur ton. Comme sur
ton c'est sur navigateur, tu
vois. C'est ça. Bon, ça a des petits défauts, hein. Ouais, on va pas s'en cacher. Fait que la barre en haut, que ce soit pas du plein écran, qu'on force, voilà, qu'on soit obligé d'aller dans les settings pour. Bah, c'est un peu les défauts aussi des jeux en HTML parfois. Quoi. C'est que tu as un peu moins la main parce qu'il y a le navigateur, parce qu'il y a le téléphone qui réagit pas de la même façon chez l'un ou chez l'autre. Quoi.
Oui. Technique qui était du coup lié vraiment à mon jeu de le jeu le plus sobre possible. Est-ce que derrière, enfin j'ai l'impression que c'était ça, mais je sais pas si j'ai mal compris ou pas, ça nous a permis de développer du coup des idées derrière de développement du jeu, pas forcément lié au public à proprement parler, mais plutôt à se dire on veut un jeu sobre. Comment on le rend le plus possible par rapport à la compression d'image, mais ne serait-ce que du coup dans le développement du jeu, est-ce que ça va être.
Qu'est-ce qu'on a mis en place pour que ce soit le plus sobre possible
comment ça peut développer la créativité autour de ce jeu particulièrement
Après, nous, ce qu'on aime bien, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec le presque moins, en fait. Moi, je suis un peu créatif. C'est un truc qui tout de suite me vient. Ok, c'est quand même un petit défi, mais t'as envie de le relever. Quoi. Donc voilà, après je ne dis pas que je fais ça tous les jours, parce que je suis un peu excessif. Mais du coup, qu'est-ce que ça nous a apporté c'est juste une petite gymnastique un peu tous les jours, de se dire comment on peut faire avec un peu moins. Quoi. Après, en dehors du design, nous on bossait tous de chez nous, donc pas de déplacement, ça, au niveau de l'impact, ça a un impact aussi, enfin, sur plutôt positif. Que, voilà, on essaie de. Alors là, on bosse avec Google Drive, mais enfin, on bossait avec Google Drive. Si on avait pu choisir un truc un peu local, ça aurait été bien. Enfin voilà, je pense qu'on peut, faire des efforts un peu à droite et à gauche pour essayer de limiter encore plus, mais voilà. On a décidé que c'était là-dessus. Chaque petite bataille est importante et bonne.
Avec la conférence de la Vendémie, il y avait, vu qu'on parlait pas mal de tout ce qui est systémique, d'intersectionnalité, etc., il y a un truc auquel on ne pense pas trop, je trouve, quand on crée ce genre de dispositif assez pédagogique, assez dans l'interaction aussi avec la jeunesse, etc., etc. Outil d'intermédiation, en fait, c'est le fait que, mine de rien, même si oui, on utilise des trucs qui, comme la planète, en termes de dispositifs numériques, etc., en vrai, ça permet de l'accessibilité pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple, dans la forêt,
pour
visiter un lieu,
ouais.
De pouvoir découvrir malgré tout, même si c'est très.
Oui, c'est un truc que je n'ai pas expliqué. C'est d'ailleurs un truc que je n'ai pas expliqué, c'est que. Un des buts aussi de la forêt de la Massane, c'est d'éviter de faire venir
oui.
Les gens en fait dans la forêt.
Est-ce que tu ne veux pas visiter en physique ? En fait, j'avais une question qui était orientée comme ça, mais je vais retourner un petit peu pour parler de faire rebondir aussi sur ce qu'avait dit Élie. C'est qu'effectivement, la forêt, elle protège en fait son site et elle ne veut pas de personnes qui rentrent à l'intérieur pour pas déranger la ville. Et du coup, ça permet, même si c'est un dispositif numérique qui est polluant parce que sa nature, quoi, ça permet quand même de la préservation déjà du lieu en local, ça permet de la préservation dans le temps parce qu'on garde une image, une forme de mémoire en fait de ce lieu, et ça permet une forme aussi d'accessibilité parce qu'on ne peut pas s'y rendre, et puis même pour les personnes qui ne peuvent pas s'y rendre, de quand même pouvoir interagir, apprendre un peu plus sur cet écosystème, etc. etc. Et en soi, en fait, moi je trouve que d'un point de vue purement scientifique, ça apporte beaucoup de choses intéressantes. Pareil pour la société, ça apporte aussi des choses intéressantes. Et par rapport au projet d'ICA aussi, enfin, les journées qu'on organise, que ce soit côté jeux vidéo ou pour les autres, on a plein de questions aussi sur la sauvegarde du numérique, sur l'intermédiation, sur le partage, sur comment est-ce que les différentes ICC en fait, elles peuvent communiquer entre elles, comment on peut installer de la science autour de tout ça aussi. Et du coup, enfin, c'est le pourquoi tu es là aujourd'hui, tu vois, c'est t'es au bon endroit pour parler de collaboration comme ça. Et je trouve que c'est ultra important qu'on n'en parle pas assez, que les game devs ne savent pas non plus assez qu'on peut faire ce genre de choses, et même d'un point de vue recherche, encourager en fait ce genre d'initiative, pas juste de nous expliquer par exemple les forêts, les pictures picturales, les œuvres picturales de Lascaux par exemple, ce genre de choses, et nous faire un truc en 360 avec un casque VR, on peut faire plein d'autres choses, on peut rendre ça plus mignon, on peut faire du board game, on peut faire du jeu, on peut faire plein de choses en fait, et ça c'est chouette.
C'était un peu le but de la forêt de la Massane, d'éviter justement d'avoir. Alors c'est pas qu'ils veulent qu'il y ait personne dans la forêt. Ils veulent éviter surtout les personnes problématiques, les chasseurs, les campeurs, voilà, des personnes qui peuvent venir détériorer la forêt ou en tout cas déranger les habitants de la forêt, classique. Et puis après, sur l'aspect web, effectivement, du coup, le jeu il sera sur leur site web, donc ça permet d'avoir une passerelle aussi entre le jeu et voilà, un vrai site qui explique les choses avec des vraies images. Donc du coup, après, on peut faire la relation, c'est ça, un érable, c'est grand comme ça, machin. Alors que dans le jeu, bon, on le voit d'une manière un petit peu différente, etc. Donc ça permet de faire le lien, en fait. C'est plutôt ce qui nous a.
Tu peux faire le lien, puis tu as bien aussi dans le jeu, un petit peu, même si c'est un peu plus tard, un peu plus lycée, tu as aussi le lien intergénérationnel avec le livre avec la grand-mère, etc. La passation qui peut se faire un peu de la transmission comme ça.
C'est ça. Oui.
Justement, pour revenir sur les financements, parce que du coup, c'est quand même quelque chose compliqué, par exemple, pour ce jeu à thème écologique et éducatif. Parce que du coup, c'est vrai que c'est intéressant, mais hélas, le financement ne suffit pas forcément pour aider, parce que déjà, la recherche n'a pas forcément beaucoup d'argent, le jeu vidéo n'a pas forcément beaucoup d'argent, les éditeurs ne sont pas vraiment tournés vers l'éducation, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que justement il y a des, enfin, il y a des dispositifs du coup de ce que j'ai compris qui existent. Enfin, est-ce que pourquoi du coup ça a été compliqué, parce que par exemple nous on avait un festival aussi à Lyon qui est une Game Lyon où on peut présenter des jeux vidéo de tout âge pour tout public, etc. Est-ce que, enfin, parce que du coup le studio de ce que j'ai compris a fermé. Est-ce qu'il n'y avait vraiment pas du tout de dispositif particulier où c'était plus facile de rentrer que d'autres, ou est-ce que c'est vraiment si fermé, tant fermé que ça, que vraiment finalement on se dit
si bah, après, c'est pas les studios en eux-mêmes qui vont chercher les financements. Là c'était plutôt la forêt de la Massin qui a un financement européen, il me semble.
Il n'y a pas eu moyen de passer par de l'éditing ou des...
Bah après nous on a essayé de trouver un éditeur. Pendant 6 mois, et puis bon, vraiment, enfin, c'était pas une bonne période, hein, c'était l'année dernière, donc je pense que c'est plus trop les bonnes périodes pour chercher des éditeurs, mais on y a cru, et puis finalement ce n'est pas arrivé. Mmh. Voilà. Question. Mais oui, en général, c'est les clients qui viennent.
Une question bête, mais c'est sur la vulgarisation. Qui choisit les animaux que vous avez présentés, comment les définir? Parce que, bah, il y a des animaux, c'est évident, genre un renard, on trouve une forêt, puis bah, c'est simple, mais par exemple bah, les insectes,
ouais.
Où il y a énormément d'espèces différentes qui peuvent se ressembler énormément, et puis bah, comment définir une espèce qui finalement peut sembler très simple, mais en même temps, bah, qui a vraiment des spécifications qui vont la rendre très différente d'autres.
Bah alors déjà, il y avait les animaux endémiques de la Maçon qu'on a représentés. Pas 50, mais les appris, c'était un peu les animaux totems. Hein. Et après, bah, c'était des discussions avec les agents. Souvent, moi j'ai une petite préférence pour lui, etc. Bah, ils ont tous leur petit insecte préféré ou leur petit animal préféré. On n'a pas vraiment eu de discussion en se disant... Bah, on a choisi celui-là, mais pas celui-là. Enfin, on nous a donné des listes. On a regardé si graphiquement ça pouvait rentrer en interconnexion les uns avec les autres. Il n'y avait pas des grosses différences de taille. Et puis après, on a fait avec nos chiffres. Enfin, pour nous, c'était simple. On allait juste aller dessiner. Puis à écrire des petites lignes de texte. Non, il n'y a pas une grande discussion.
Après, il y a des charges de leur part particulières.
Si, oui, ils nous donnaient une liste et puis après ils nous disaient dedans on en prend une douzaine d'insectes, une douzaine de mammifères, une douzaine d'oiseaux, et puis après quand on avait fait. Bon alors si de temps en temps ils nous disaient ah oui mais là vous avez enlevé celui-là, on enlèverait peut-être plutôt celui-là. Mais c'était des choix qu'on fait les tout premiers mois. Et puis une fois que c'est acté, avance. Et puis, tant qu'on n'a pas fait les animations et qu'on nous dit non, c'est pas celui-là qu'on voulait, en fait, c'est un autre. Là, ça aurait été un petit peu plus embêtant, mais bon, ça s'est fait naturellement. Franchement, on a eu de la chance, c'était vraiment un client qui est super. Autant humainement que.
Moment-là des discussions sur à la fois la technicité de la représentation des différents animaux et le côté émotionnel, ou est-ce que c'était sous-jacent? Parce qu'en fait, pour répondre à la question de comment est-ce qu'on fait dialoguer des milieux différents, je me demandais si là il n'y avait pas un enjeu sur... En fait, puisque les deux domaines sont très différents, qu'est-ce qui relie? Je me demande si justement...
Pour l'émotion.
Pour les animaux, parce que tu disais, ils préfèrent cet animal-là.
Ah oui.
Et...
Non, mais le truc de base, c'était quand même de se dire, on représente globalement une chaîne alimentaire presque entière. Quoi. Mm-hmm. Donc on prend, le renard qui mange une souris, la souris qui mange, qui remonte des trucs, quoi, des graines, des trucs comme ça. Donc, bah, du coup, on est obligé d'avoir... d'avoir un peu les trois pour pouvoir. On ne va pas choisir. Je dirais une bêtise, mais. Un aigle, et puis dans la forêt, il n'y a pas ses proies, quoi, par exemple. Donc du coup, voilà, tout était un peu, ils étaient tous un peu liés, mais c'était aussi du fait de la proposition des agents de la forêt, qui savaient déjà très bien. Nous, on avait demandé spécifiquement à ce que, effectivement, ils puissent tous être liés les uns avec les autres, hein, pour montrer que vraiment, ils ont des interconnexions. Il y en a, ils mangent tel type d'herbe et puis l'autre, ils mangent telle plante. Donc il faut les représenter toutes les deux si on veut qu'il y ait des quêtes qui soient ensemble, quoi, avec tel ou tel type d'animal. Parce que si on a un truc un peu tout seul, qui juste cherche tel truc, mais tu sais pas. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autres interactions avec d'autres éléments, c'est un peu moins intéressant. Et puis derrière, comme on les réutilise aussi dans les autres jeux, puzzle ou etc. Donc, on avait un truc de tropique aussi où bah, c'est un peu qui mange qui, quoi, globalement. C'est tu mets tes stickers et puis ah bah, la jeunette elle mange une musaraigne, la musaraigne elle mange ça, machin, et tu dois refaire le tropique, enfin l'enfant doit refaire le tropique. Donc, le choix découlé aussi pour les mini-jeux aussi. Tout était un petit peu lié en fait par la biodiversité de la forêt. Ça me parle pas du tout.
Ah,
moi, je fais des bon,
en gros, votre jeu va se lancer dans votre navigateur, mais sans tous les trucs du navigateur, sans la barre en haut.
Ah oui, oui, mais il faut que tu ailles quand même dans les settings pour le...
En haut à droite, il faut faire ajouter à l'écran d'accueil. Ou alors dans votre jeu, vous pouvez mettre un bouton qui va le faire.
Mais c'est des petites contraintes qui se rajoutent.
Il faut que l'utilisateur appuie sur le bouton pour que ça apparaisse dans son téléphone.
C'est pareil, le son ne se lance pas tout seul parce qu'il y a interdiction sur les navigateurs de lancer un son automatiquement. On doit avoir la validation de l'utilisateur avant. Donc c'est des choses qui. C'est tout un tas de petits trucs comme ça qui font que c'est parfois un peu pas pénible, c'est pas le terme. Les gens qui jouent sur le navigateur sont l'habitude.
Il y a un jeu de Malou comme ça où c'est sur navigateur aussi. Enfin, il y a une version appli aussi, mais j'ai pas envie de installer le truc super, super beau. Quand je joue sur la version navigateur, ça se lance direct. Et ils ont ce truc là où tu fais ajouter à l'écran d'accueil et du coup, tu l'as dans le téléphone, tu peux t'appuyer sur l'icône et ça lance comme si t'es navigateur, mais il n'y a pas la barre en haut et tout.
D'accord.
C'est pas mal. Mais c'est vrai que oui, il faut ajouter un truc pour que ça se fasse pas tout seul.
Ouais.
Merci.
Merci.